Partie 1. La disparition. Chapitre 1. Un landau sous la fenêtre. Comme un brusque rappel à la réalité, la sonnerie du réveil marque la fin d'une courte nuit et la reprise du rituel. À 8h30, le 14 juillet 1965, Alice Crimmins se lève dans la quiétude de son appartement, avec pour seul bruit de fond celui du climatiseur. Première étape, s'apprêter. Avant de retrouver ses enfants dans la pièce d'en face, avant de promener Brandy, leur chienne, un loulou de Poméranie, la jeune femme se réserve toujours quelques minutes pour elle, toute seule. Elle relève son épaisse chevelure blond vénitien en une élégante coiffure bouffante et crêpée, recouvre son visage pâle d'un épais fond de teint, farde légèrement ses pommettes rebondies, et enfin souligne ses yeux clairs en amande d'un trait d'eyeliner. La journée peut commencer. Dans l'appartement, ce matin, un détail pourtant l'interpelle. Le silence pesant. D'ordinaire, à cette heure-là, les voix d'Eddie Junior, 5 ans, et de sa petite sœur Missy, 4 ans, remplissent le trois pièces. Aujourd'hui, rien. Alice Crimmins se dirige vers leur chambre, ouvre la porte. Les deux lits sont vides. La fenêtre est grande ouverte. La moustiquaire, un cadre en grillage fin qu'Alice avait installé la veille, n'est plus là. Elle la retrouve posée contre le mur, à l'extérieur, près d'un landau qui sert en général de caddie au concierge de la résidence. L'appartement est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble du quartier de Kew Gardens Hills. Seul un carré de pelouse soigneusement entretenu et une large allée ordonnée séparent la fenêtre de la rue. Partout, le même paysage. Le bâtiment de 3 étages en briques rouges où elle habite avec ses enfants est construit en parfaite symétrie avec l'immeuble mitoyen. Quelques mètres plus loin, le modèle est reproduit à l'identique. Même brique, même pelouse, même allée. Et ainsi de suite dans les rues alentour, qui s'étalent en un large monochrome rouge oxyde de fer répété à l'envi. Ici, l'uniformité ne laisse pas de place à la fantaisie. De chaque côté des fines cloisons, des familles modestes louent des 3 ou 4 pièces où elles mènent des existences sans histoire identiques à celles de leurs voisins. Les pères sont ouvriers ou fonctionnaires, les mères femmes au foyer ou vendeuses. Quand les résidents se croisent, les échanges sont cordiaux mais rarement amicaux. Personne ne s'installe dans cette partie du Queens en espérant y passer sa vie. Administrativement, on est bien à New York, mais on se sent loin de Manhattan que tous ici appellent la ville. Kew Gardens Hills est à mi-chemin entre la frénésie urbaine et la banlieue pavillonnaire. Un endroit où patienter, entre le nouvel enfant et la promotion, avant de pouvoir s'offrir un peu du rêve américain, une maison avec un bout de pelouse bien à soi. En partant au travail, par automatisme, les voisins jettent souvent un coup d'œil à la fenêtre de la chambre des enfants Crimmins. Nichés sur le rebord, ils font coucou aux passants. Eddie Junior et Alice sont prénommés comme leurs parents, mais tout le monde appelle la petite Missy. Certains jours, ils s'aventurent aussi à l'extérieur, s'échappant en douce pour jouer sur le gazon devant l'immeuble, pendant que leur mère dort encore. Mais ce matin du 14 juillet, pas plus qu'ils ne sont dans leur chambre, ils ne sont ni à la fenêtre, ni sur la pelouse. Alice Crimmins pense d'abord qu'ils sont allés faire les yeux doux à un voisin en échange de pancakes ou d'une quelconque friandise. Elle vérifie chez plusieurs d'entre eux, notamment chez Teresa Costello, l'une des babysitters des enfants. En plein petit déjeuner à l'arrivée d'Alice, la jeune fille de 14 ans abandonne sa cuisine pour s'empresser d'aider la mère dans ses recherches. Après un rapide tour des environs, toujours aucun signe d'Eddie et Missy. Peu après 9h, Alice Crimmins se résout à faire ce qu'elle aurait préféré éviter, appeler le père des enfants. Les époux Crimmins, âgés de 26 ans pour Alice et 29 ans pour Eddie Senior, sont séparés depuis 1 an et demi. Ils n'ont pas divorcé, mais Eddie a quitté le domicile conjugal à la demande d'Alice. Les choses ont commencé à se compliquer entre eux après la naissance de Missy. Scénario banal et vieux comme le monde, le mari s'est mis à beaucoup sortir, l'épouse lui a reproché de la laisser seule, les frustrations se sont accumulées et les disputes ont empiré. Alice a commencé à fréquenter des amants. Les derniers temps avant la séparation, il arrivait que le couple ne se parle pas pendant plusieurs semaines et aille dîner ensemble chez des amis sans s'adresser la parole de toute la soirée. Habiter séparément n'a pas arrangé la situation. 2 semaines plus tôt, Eddie a officiellement demandé la garde des enfants. Depuis, une bataille fait rage entre les deux anciens amoureux, faite de coups de fil furieux et de courriers d'avocat. Une audience pour statuer sur la question est prévue le lundi suivant. La sonnerie du téléphone tire Eddie du sommeil. « Eddie, tu as les enfants ?»« Non. » »« Eddie, ne joue pas avec moi. » »« Je ne les ai pas. » »« Eddie, ne fais pas l'idiot, ne me fais pas ça !» Malgré la colère, malgré les conflits, malgré les reproches, Eddie perçoit dans la voix d'Alice un degré de panique suffisamment élevé pour qu'il se déplace immédiatement. Le coup de fil suivant est à son initiative. À 9h44, la centrale de police du quartier reçoit un appel. « Mon nom est Crimmins, Eddie Crimmins. Mes enfants ont disparu. » La journée du détective Gérard Piring démarre au tribunal du Queens. Le policier doit témoigner contre un cambrioleur qu'il a arrêté quelque temps plus tôt. Hasard du destin, l'audience est reportée. Piring passe un coup de fil au commissariat pour connaître les affaires en cours. 2 enfants de 4 et 5 ans sont portés disparus. Leur résidence ne se trouve qu'à quelques minutes de route du tribunal. Alors va pour la disparition. Lorsqu'il arrive vers 10h30, Piring est le premier détective chez Alice Crimmins. Il effectue un rapide état des lieux. La chambre des enfants est meublée d'un petit lit sur la gauche et d'un lit à barreaux sur la droite. Entre les deux, une commode a été placée juste sous la fenêtre. Une armoire métallique et un coffre à jouets viennent compléter l'ensemble. Tout semble à sa place, sans trace de lutte ni de désordre, mais certains détails chiffonnent l'inspecteur. D'abord, un loquet a été placé sur la porte à l'extérieur de la chambre. Les deux parents s'en expliquent. Le petit Eddie fait parfois des raids nocturnes pour dévorer le contenu du frigo, et c'est la solution qu'ils ont trouvée pour lui éviter des crises de foie. La nuit, les enfants sont donc enfermés. Deuxième incongruité, à côté de la poubelle de la cuisine, le policier remarque une douzaine de bouteilles d'alcool vides. La jeune femme voulait les jeter, explique-t-elle. Elle attendait la visite d'un agent pour la garde des enfants et s'est lancée dans un grand ménage les jours précédents. Elle a même repeint le vestibule. Peu importe les explications, Gérard Piring n'aime pas ce qu'il trouve dans l'appartement et surtout, il n'aime pas la femme qui se tient en face de lui. Elle ne correspond en rien à l'image que ce policier de 35 ans, père de famille nombreuse, se fait d'une mère inquiète. Elle porte un pantalon capri jaune canari, un chemisier coloré et des ballerines noires. Ses yeux fardés sont impénétrables. Il semble abriter le feu d'une grande passion intérieure et de nombreux mystères. Et aucune larme n'en sort, constate Piring. La mère répond à ses questions d'une voix suave, nonchalante, marquée d'un léger accent traînant du Bronx où elle a grandi. D'un ton indolent, elle demande au policier du feu pour sa cigarette. Il se crispe. Ses enfants ont disparu et elle cherche une allumette. Piring et les policiers qui l'ont rejoint sur place font une autre découverte. Sous son lit, il trouve une boîte contenant des papiers, notamment des menus de restaurants, dédicacés par des hommes politiques. Parmi eux, le maire de New York, Robert Wagner, ou encore le sénateur Robert Kennedy, le frère du président John Fitzgerald Kennedy, assassiné 2 ans plus tôt. Pas forcément ce qu'on s'attendrait à trouver chez une femme de 26 ans qui travaille comme serveuse dans plusieurs bars des environs. Son mari est mécanicien à l'aéroport John F. Kennedy. Il tourne dans l'équipe de nuit. Les parents mènent 2 existences a priori ordinaires dans un coin modeste du Queens, des trajectoires de vie qui croisent rarement celles de la haute société de Manhattan. Sommée de s'expliquer, Alice Crimmins raconte qu'elle a rencontré brièvement ces hommes lors de soirées mondaines où elle était invitée. Dans la même boîte se cache un autre secret, des lettres de plusieurs amants. Alice y est souvent affublée du même surnom, Rusty. Le contenu des courriers confronte le détective Piring à tout ce qui heurte ses valeurs morales. Dans le monde de ce fervent catholique, les épouses ne mettent pas leur mari à la porte. Elles ne boivent pas d'alcool, elles ne courent pas les soirées chics, et elles n'ont pas d'amant. Alors, quand son collègue le détective George Martin le rejoint enfin, Piring lui suggère de mener 2 interrogatoires séparés. Il sait déjà de qui il va s'occuper. « Tu prends le mari, je prends la garce. »